Et les matins se poursuivent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une journée de colère chez les agriculteurs en France. Plusieurs syndicats appellent à bloquer les routes aujourd'hui pour dénoncer notamment les traités de libre-échange comme le CETA. Alors que ces dernières semaines, les manifestations se sont multipliées dans plusieurs pays européens, nous dira Cécile de Carvaz-Doué.
Les aides à domicile et les personnels de maisons de retraite appelés à la grève aujourd'hui.
Oui, alors que les retraités aussi manifestent contre la réforme des retraites.
Après avoir annoncé un retrait des troupes américaines dans le nord-est de la Turquie, Donald Trump menace Ankara d'anéantir son économie en cas d'intervention militaire face aux Kurdes.
Analyse depuis Beyrouth et Washington dans ce journal. Et puis nous entendrons une militante d'Extinction Rébellion, qui est un mouvement donc d'action non violente d'écologistes. Une occupation est toujours en cours en ce moment même. C'est place du Châtelet à Paris. La Turquie se dit prête à intervenir militairement dans le nord-est de la Syrie. Une nouvelle affirmation cette nuit, malgré la volte-face de Donald Trump. Hier, le président américain avait annoncé un retrait des troupes américaines dans la région avant de se raviser, parlant d'un simple redéploiement des troupes vers l'intérieur du pays. L'Iran dit à l'instant à la Turquie son opposition à l'action militaire dans un communiqué officiel. Nous partons tout d'abord à Beyrouth, rejoindre notre correspondant dans la région, Aurélien Colli. Les préparatifs sont bouclés, a dit hier soir le ministre de la Défense turc. Alors faut-il s'attendre à une intervention militaire ?
Que la Turquie se dise prête pour cette opération, c'est assez logique, tant le président Erdogan réclame la création de cette zone de sécurité d'une profondeur de 30 km en territoire syrien. Il la présente depuis des mois comme la solution pour éradiquer d'une part les milices kurdes qui ont certes combattu Daesh, mais que lui assimile à des terroristes liés aux séparatistes kurdes de Turquie, et pour régler d'autre part le problème des réfugiés syriens présents en Turquie, puisqu'il veut en réinstaller aussi près de 2 millions dans cette zone qui serait contrôlés par l'armée turque, alors que leur présence en Turquie attise la grogne de sa population. Maintenant, sur le terrain, comme l'a répété hier un haut gradé américain, puis le président Trump lui-même, il n'y a pas eu de retrait généralisé, mais un simple repli d'une centaine de forces spéciales qui ont quitté des postes frontaliers pour être redéployées dans leurs bases. Si on ajoute à cette réalité les menaces de Donald Trump hier soir de mettre à genoux l'économie turque en cas d'action unilatérale d'Ankara, eh bien la donne est radicalement différente pour la Turquie. Avec 2000 hommes dans le nord-est syrien, les États-Unis ne protègent pas militairement les Kurdes, mais leur présence assure leur protection politique. On imagine donc mal la Turquie se lancer dans une opération dans de telles conditions. Opération coûteuse en plus pour une économie turque en récession. Opération difficile également face à des forces kurdes que la guerre contre Daesh a aguerries et qui ont prévenu qu'elles ne se laisseraient pas envahir sans combattre.
Donald Trump pourtant semblait fermement déterminé hier à retirer les troupes américaines. Grégory Phillips, bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Le président américain a finalement cédé face à la pression internationale, mais aussi face à la pression de son propre camp.
Oui, ça commence dimanche, en fin d'après-midi. Donald Trump s'entretient au téléphone avec le président turc Erdogan, puis à 23h, heure de Washington, tombe le communiqué de la Maison-Blanche qui, en 11 lignes et 2 paragraphes, stipule que les troupes américaines vont se retirer de cette zone frontalière située entre Turquie et Syrie et qu'Ankara s'apprête à lancer une opération planifiée depuis des mois. Lundi matin, 7h, Donald Trump appuie cette déclaration par une salve de tweets dans lesquels il confirme que son pays va sortir de ces guerres coûteuses et interminables. Quasi immédiatement, ses alliés républicains lui tombent dessus à bras raccourcis. Décision irresponsable, commente l'influent sénateur Lindsey Graham. Abandonner les forces kurdes restera comme une tâche sur l'honneur de l'Amérique. Nikki Haley, l'ex-ambassadrice aux Nations Unies, ajoute « Laisser mourir nos alliés kurdes serait une énorme erreur ». Alors hier soir, juste avant de recevoir des militaires à la Maison-Blanche, Donald Trump précise « Il ne parlait du retrait que de 50 membres des forces spéciales américaines. Et surtout, il menace désormais la Turquie, dont l'opération contre les Kurdes semble imminente. » J'ai dit à la Turquie, si vous faites quoi que ce soit d'inhumain, alors on frappera très durement votre économie. La diplomatie de Trump fluctue d'heure en heure. Toute la journée d'hier, le Pentagone a paru extrêmement embarrassé.
Merci Grégory Phillips à Washington pour France Culture.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 8h05, c'est la suite du journal de Sophie Delpont, journée de contestation chez les agriculteurs, aujourd'hui en France.
Oui, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, ils sont appelés à bloquer les grands axes routiers un peu partout en France, entre 11h et 14h aujourd'hui. Un rendez-vous intitulé « France, veux-tu encore de tes paysans ?» Il veut interpeller les citoyens et dénoncer les attaques dont ils se sentent victimes, autant sur les accords commerciaux du type du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne, que sur les appels à limiter l'épandage de pesticides. Alors que des manifestations se multiplient un peu partout en Europe ces derniers jours, mais en ordre dispersé pour l'instant, c'est-il le Carvaz-Doué.
Jamais vu aux Pays-Bas, mardi dernier, des milliers d'agriculteurs néerlandais ont provoqué près de 1000 km de bouchons. Ce jeudi, ce sont les producteurs d'huile d'olive espagnole qui se mobilisent, alors que de son côté, le plus grand syndicat agricole allemand promet déjà une action. Chaque fois, ils s'inquiètent, comme en France, de devenir les boucs émissaires de la lutte contre le réchauffement climatique et dénoncent les contradictions des consommateurs qui veulent une agriculture plus durable tout en privilégiant les produits les moins chers. Pourtant, il n'y a pas encore de mobilisation agricole européenne à proprement parler, explique Jean-Pierre Fleury au COPACOGECA. C'est le syndicat européen des agriculteurs.
Je ne suis pas sûr qu'une grande manifestation à Bruxelles va faire avancer beaucoup les sujets. Je pense que c'est la multitude des actions qui sont conduites dans les États membres pour faire prendre une prise de conscience à la société que l'agriculture européenne et en particulier l'élevage sont en très grand danger. Au niveau européen, on dit, bon ben voilà, les attentes sociétales, on va faire du bio, on va faire du changement climatique, on va faire du circuit court, mais on n'a pas pensé les impacts économiques sur les exploitations. Ça va se faire tout ça dans une période d'incertitude sur l'avenir du budget de la PAC, on est en train de nous demander de faire plus avec moins.
À cela s'ajoutent les accords multilatéraux avec le Canada ou l'Amérique du Sud, perçus comme un risque de concurrence déloyale par tout le secteur agricole européen.
Cécile Carvaz-Doué pour France Culture. En France, journée de mobilisation aussi pour les aides à domicile, auxiliaires de vie indispensables pour les personnes âgées devenues dépendantes. Ces auxiliaires de vie sont appelés à la grève aujourd'hui. Les personnels des EHPAD, aussi les maisons de retraite, ils réclament notamment la création de 40 000 postes, Catherine Pétillon.
Il n'y a qu'indifférence là où les mesures nécessaires sont urgentes. Voilà en substance le message que les professionnels de l'aide à domicile veulent faire passer aujourd'hui. Le constat démographique est pourtant connu depuis longtemps. Dans 30 ans, la France comptera près de 4 millions de personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Et pour Guillaume Quercy de l'Union nationale de l'aide à domicile et du soin à la personne, nous n'y sommes pas prêts.
Il faut quand même se rappeler que les Français, ce qu'ils veulent, c'est vivre à domicile le plus longtemps possible. On sait qu'aujourd'hui, une demande sur 10 ne peut pas être satisfaite parce qu'on n'arrive pas à recruter, parce que nos métiers ne rémunèrent pas suffisamment. Et on a un vrai problème de catastrophe économique, c'est-à-dire que dans l'aide à domicile, des associations de 300, 400, 500 salariés, ce sont souvent les premiers employeurs des territoires qui ferment. Tout le monde s'en fiche.
En cause, le manque d'attractivité des métiers. Il faut dire que la rémunération des aides à domicile, souvent des femmes, est particulièrement basse et les conditions de travail éprouvantes. Les acteurs non lucratifs, largement dépendants des budgets publics, attendaient donc beaucoup du nouveau budget. Or, le compte n'y est pas, déplore Pascal Chanvert, le directeur de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Le président Macron a dit « Je serai au rendez-vous de l'attente des Français en matière d'aide à l'autonomie des personnes âgées ». Le Premier ministre a dit « Ce sera un marqueur social du quinquennat, si ce n'est le marqueur social du quinquennat ». Et aujourd'hui, nous n'avons rien.
Un an et demi après une première mobilisation, les professionnels de l'aide aux personnes âgées seront dans la rue aujourd'hui avec des constats inchangés. Ils espèrent aussi peser lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale mi-octobre.
Catherine Pétillon, les syndicats appellent à manifester ce matin à 11h à Paris devant le ministère de la Santé. Une nouvelle mobilisation de l'intersyndicale des retraités aussi aujourd'hui un peu partout en France.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont, de nouveaux éléments inquiétants dans l'enquête après l'attaque de la préfecture de police de Paris.
Et plusieurs clés USB contenant des vidéos de propagande du groupe État islamique et des données personnelles concernant une dizaine d'agents de la préfecture de police ont été retrouvées au domicile de l'agent qui a tué 4 de ses collègues jeudi dernier à la préfecture de police de Paris. Janis Mirovski, bonjour.
Bonjour.
Il s'agirait de nouvelles failles dans la détection de la radicalisation de Michael Harpon, des failles qui posent beaucoup de questions, qui seront posées ces questions ce matin au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le ministre sera auditionné par la délégation parlementaire au renseignement.
Les enquêteurs ont donc retrouvé ces clés USB lors de la perquisition un jeudi au domicile de Michael Harpon à Gonesse dans le Val d'Oise. On y retrouve en plus de nombreuses vidéos de propagande du groupe État islamique, des coordonnées et des données personnelles d'une dizaine de collègues de l'assaillant à la préfecture de police de Paris. On ne sait pas encore pourquoi il gardait ces fichiers. Que comptait-il en faire? Est-ce qu'il les a partagés? Ça pose beaucoup de questions quand on sait que Michael Harpon était informaticien à la direction du renseignement de la préfecture de police. service, employé depuis 2003 et qu'il avait l'habilitation secret défense, l'un des plus hauts niveaux d'habilitation de la préfecture. Il avait donc accès à des informations très sensibles. Jusqu'ici, il était passé sous les radars du renseignement. Il avait bien des contacts avec des salafistes, d'après le procureur antiterroriste, et montré quelques signaux, mais faibles. En 2015, par exemple, il avait justifié l'attentat de Charlie Hebdo devant des collègues, mais rien n'a été consigné par écrit, seulement un signalement oral et informel à la hiérarchie. Aucune mention de radicalisation ne figurait dans son dossier administratif. Le ministre de l'Intérieur a reconnu des dysfonctionnements. Hier, il n'y a pas eu d'alerte au bon niveau, au bon moment, dit Christophe Castaner. Il devra donc s'en expliquer ce matin à huis clos devant la délégation parlementaire au renseignement, puis dans l'après-midi devant la commission des lois de l'Assemblée nationale et devant celle du Sénat jeudi prochain.
Merci Vianney Smiarovski en direct ce matin sur France Culture. À la préfecture de police de Paris, à 11h ce matin, un hommage sera rendu aux victimes de l'attaque au couteau. Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour un discours d'une quinzaine de minutes. À l'Assemblée nationale, alors que le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit hier favorable à la mise en place de quotas d'immigration en France lors du débat qui se tenait hier, une dizaine d'associations d'aide aux migrants se sont réunies à Paris dénonçant une déconnexion et une instrumentalisation de ce débat, Louis de Bergevin.
Ils sont 8 autour de la table dans ce local parisien mis à disposition par le CCFD Terres Solidaires. 8 représentants d'associations comme Dominique Noguer, vice-présidente de la Ligue des Droits de l'Homme. Ils travaillent chaque jour avec des migrants et ils sont révoltés de ce qu'ils entendent dans la bouche de certains élus.
Les fake news, les étrangers viennent chez nous pour profiter du système de santé, de notre système social. On est envahis, il y a trop de demandeurs d'asile. Alors oui, le nombre de demandeurs d'asile effectivement a augmenté. C'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, mais on est loin de l'invasion.
Autre inquiétude, alors que le Rassemblement National et les Républicains demandent de supprimer l'aide médicale d'État. Elle prend en charge les soins des immigrés sans papier. Emmanuel Macron, lui, voudrait la réévaluer. Hors de question pour le docteur Patrick Bouffard de Médecins du Monde.
Notre jurisprudence, elle est hippocratique. Notre jurisprudence, c'est le serment qui nous engage. Donc si vous voulez, pour nous, l'inconditionnalité du soin, l'universalité du droit à la santé, c'est quelque chose qu'on ne devrait même pas discuter.
Ces associations trouvent tout simplement que les parlementaires ne connaissent pas la réalité des problèmes. Ce, par exemple, que rencontre David Saunier, membre d'une ONG à Caen.
Ce qu'on voit sur le terrain, c'est la souffrance des personnes migrantes, alors que ça soit souffrance physique, psychologique, qui sont mal accueillies, et puis le déni du droit de la part du personnel de l'État ne font pas ce qu'ils devraient faire, quoi, ce à quoi ils se sont engagés à faire, ne serait-ce que dans la loi.
Les représentants appellent les élus à regarder les chiffres, rien que les chiffres, sans idéologie.
Plusieurs centaines de militants et de sympathisants du mouvement écologiste Extinction Rébellion occupent encore ce matin un pont de la Seine au centre de Paris à Châtelet, après y avoir passé la nuit dans le calme. Ils participent à des actions prévues pendant 2 semaines dans plusieurs grandes villes dans le monde, comme à Sydney et à Berlin notamment, pour réclamer des actions d'urgence en faveur de l'environnement. Et parmi ces militants, Véronique Rebérotte a rencontré Lucie, une institutrice de 36 ans, mère de 2 enfants.
Faire un blocage comme ça, pour moi, c'est la première fois. Après, j'ai toujours été dans les mouvements écologistes depuis très longtemps. J'ai toujours constaté qu'on perdait de manière cuisante à chaque fois. J'étais enseignante, je me suis mise en grève parce que j'avais l'impression de mentir aux enfants par omission.
C'est comme ça que ça doit tirer.
Et ce monde qui est basé sur une croissance infinie dans un monde fini, on sait qu'il n'a pas d'avenir. On sait que nos gouvernements ne veulent pas le lâcher parce qu'ils sont manipulés par l'argent. Et qu'il va falloir qu'on leur fasse comprendre d'une autre manière. Donc on va tester toutes les manières possibles pour le faire comprendre parce qu'on ne va pas pouvoir élever des enfants en leur disant qu'ils n'ont pas d'avenir.
Le sentiment de passer à la vitesse supérieure en bloquant comme là devant Châtelet à Paris
Eh bien oui, vu qu'on perd dans les systèmes de lutte habituels, il faut qu'on trouve d'autres moyens de lutte très forts et aussi très rapides parce qu'on sait qu'on a très peu de temps, les scientifiques n'arrêtent pas de le dire, tous nos gouvernants le savent, ils en font pas beaucoup de bruit et ils font pas leur travail, donc ils devraient plus être là.
Alors là, je disais, vous avez une poubelle, il sort des tuyaux, vous êtes combien de 6 autour et vous avez le bras dans le tuyau relié.
Et on a une sangle autour de notre poignet avec un mousqueton qui nous relie à une tige filetée. Ce qui fait qu'en fait, si la police tire, ils peuvent nous déboîter le bras, mais on ne peut pas partir en fait. Moi, je vais rester le plus longtemps que je peux. Là, dans cette position-là, on va essayer de rester. Voilà, je suis allongée sur la route, je ne l'ai jamais fait de ma vie.
Des propos recueillis au micro France Culture de Véronique Rebérotte. Près d'un millier de personnes se sont rassemblées hier à Villiers-le-Bel pour un hommage après la mort d'un jeune homme. 24 heures après, ce jeune homme a été victime d'un accident de moto à proximité d'une intervention de police. Le cortège a marqué une pause aussi sur le lieu du décès de 2 adolescents morts en 2007 dans une collision entre leur moto et une voiture de police. Leur mort avait donné lieu à l'époque à des émeutes urbaines et de violents affrontements avec les forces de l'ordre. L'enquête se poursuit autour des circonstances. Des images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. Particulièrement attendu aussi l'autopsie du jeune homme qui doit avoir lieu aujourd'hui. La météo, de la pluie sur la moitié nord du pays, du soleil sur la moitié sud. Les températures aujourd'hui sont comprises entre 13 et 21 degrés en moyenne. 13 degrés à Lille, 15 à Paris et à Bordeaux et 21 degrés maximum, ce sera pour Nice.
Merci beaucoup Sophie Delpont. Il est 8h15. Sur France Culture, nous allons retrouver notre invitée Justine Lacroix qui publie avec Jean-Yves Franchère « Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?» Et justement, ces droits de l'homme aujourd'hui, ils sont confrontés à la crise climatique avec des notions nouvelles telles que celle par exemple de désobéissance civile. Nous serons en compagnie de Manuel Cervera-Marzal, un sociologue, pour tenter de comprendre ce que sont ces nouvelles formes de mobilisation. Dans 30 minutes, la désormais célèbre séquence TTC avec la transition d'Hervé Gardette, laquelle sera consacrée au bruit et à l'odeur, la rentrée littéraire des morts chez Mathilde Serrel, et enfin un donjon chez Aurélien Bélanger, et puis un billet politique avec vous Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et dans le billet politique, justement la question des libertés publiques.
Oui, est-ce à cause du climat anxiogène de l'actualité ? En tout cas, cette question est totalement reléguée au second plan.